Europe 1. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud et aujourd'hui, je vous raconte le destin de Mère Teresa. Cette religieuse catholique est connue pour ses actions contre la pauvreté en Inde et dans le monde. Elle a reçu de très nombreuses récompenses pour ses œuvres, dont le prix Nobel de la paix. Elle a même été canonisée après sa mort. Mais celle qu'on surnomme la mère des pauvres est aussi un personnage crépusculaire à qui on reproche des conversions forcées et son militantisme anti-avortement. C'est son histoire passionnante et pleine de rebondissements que j'ai envie de vous faire découvrir aujourd'hui dans ce récit en deux parties. Mère Teresa, la sainte des ténèbres. Épisode 1. L'appel de Dieu. Nous sommes le 10 septembre 1946, dans le train reliant Calcutta à Darjeeling. La chaleur enveloppante invite à la torpeur. La sœur Maria Teresa se laisse bercer par le cahotement du train. Elle s'assoupit. Sa coiffe noire se froisse contre la vitre de la fenêtre. Ses mains glissent sur l'étoffe blanche de sa longue robe. Soudain, une voix claire et directe la sort de son demi-sommeil. Cette voix impérieuse et pleine d'amour lui ordonne de sortir du couvent pour s'occuper des pauvres. Sœur Maria Teresa est d'abord perplexe. Puis, une conviction s'impose à elle. Ce qu'elle vient d'entendre est l'appel de Dieu et elle mettra tout en œuvre pour y répondre. Agnès naît en 1910 à Skopje, en Macédoine, région alors contrôlée par l'Empire ottoman. Elle est la troisième fille d'un couple de commerçants albanais. À cette époque, les femmes portent encore des jupes longues et des corsets. Il n'y a pas de télévision, seuls les livres permettent d'imaginer des pays lointains. La fillette issue de la petite bourgeoisie ne manque de rien, même pendant la Première Guerre mondiale. Sa mère l'initie aux devoirs de sa classe sociale en l'emmenant régulièrement s'occuper des plus pauvres qui viennent demander de l'aide à la paroisse. La mère d'Agnès pratique aussi la table ouverte. Un affamé ou un sans-abri peut partager le dîner de la famille. Agnès est imprégnée par ces notions de partage et d'aide aux plus pauvres qu'elle lui inculque avec une certaine sévérité. Elle a 8 ans quand son père meurt. En plus d'un deuil douloureux, la famille risque de sombrer dans l'indigence. La mère d'Agnès, contrainte de travailler, ouvre son propre atelier de couture. La petite Agnès trouve beaucoup de réconfort dans la paroisse catholique qu'elle fréquente. Avec son frère et sa sœur, elle fait partie de la chorale. En 1922, Agnès a 12 ans. Elle sent sa foi s'affermir. Alors que d'autres adolescentes commencent à rêver de mariage, Agnès s'exalte dans l'amour du Christ. La spiritualité la comble. La communion la réjouit. Sa vocation est en train de naître. Agnès échange souvent avec le père Franjo Jambrekovic, un jésuite de sa paroisse. Un jour, elle lui demande comment savoir si on doit entrer dans les ordres. Il lui répond que cette décision doit être source de joie. Le jésuite lui raconte les périples des frères et des sœurs partis en mission dans des pays exotiques. Petit à petit, elle rêve de porter la parole de Dieu aux confins du monde. Au début des années 20, les pays d'Europe, tout comme l'Empire ottoman, sont encore des puissances coloniales. À part quelques bastions progressistes et laïques, les gens sont encore très pieux et l'Église catholique, comme toutes les religions prosélytes, poursuit son œuvre missionnaire. Il faut convertir les non-catholiques dans les pays lointains tout en leur apportant de l'aide pour lutter contre la misère. Cette dimension missionnaire existe dès la fin de l'Antiquité. Elle est particulièrement vive depuis les entreprises de colonisation du XVIe siècle. Nous sommes à Skopje le 25 septembre 1928. Agnès a tout juste 18 ans. Elle prépare avec excitation ses affaires pour se rendre à Dublin. Grâce au père Jambrekovic, elle s'apprête à partir faire son noviciat, son initiation à la vie religieuse, chez les Sœurs de Lorette, une congrégation féminine enseignante et hospitalière. Elle ne s'attend pas à ce que l'un des membres de sa famille essaye de l'en empêcher. Son frère Lazare fait irruption dans sa chambre. Il ne comprend pas pourquoi sa petite sœur part si loin des siens. Il lui assure qu'elle va gâcher sa vie. Agnès dévisage son grand frère dans son costume d'officier. Lui, il a décidé de se mettre au service de son pays qui est libéré des Turcs depuis 1912. Elle va se mettre au service du royaume de Dieu. Devant tant de détermination, Lazare renonce. Agnès est une tête de mule et il est impossible de la raisonner, d'autant plus qu'elle bénéficie du soutien de sa mère qui la pousse à venir en aide aux indigents. Le lendemain, Agnès quitte son pays natal. Elle ne le reverra pas avant très longtemps. La Russie communiste, qui étend son emprise sur ce qui deviendra bientôt le bloc de l'Est, favorise une laïcisation de la région à marche forcée. Le culte catholique y sera interdit pendant plusieurs années. La Macédonienne découvre l'Irlande, un pays où le catholicisme est très prégnant. En rejoignant sa nouvelle congrégation, elle commence par apprendre l'anglais. 3 mois lui suffisent pour communiquer dans cette langue. Elle part ensuite pour Calcutta, la capitale du Bengale située en Inde britannique. Depuis le XVIIe siècle, les puissances européennes ont commencé à coloniser l'Inde. Ce pays très riche et aux abondantes ressources naturelles n'était pas unifié et n'avait pas les moyens de résister aux armes modernes des colons. L'Angleterre prend le contrôle de la majeure partie du territoire quand la France et le Portugal se limitent à quelques comptoirs. Le Bengale, situé au nord-ouest du pays, est un immense territoire de 400 000 km². C'est presque aussi grand que la France. Calcutta en était la capitale jusqu'en 1915. C'était un nœud commercial prospère, mais la cité décline depuis que New Delhi l'a remplacée. Le terrorisme et les remaniements coloniaux ont considérablement appauvri la région et des migrations venant du Pakistan surchargent la ville qui n'est plus capable d'absorber une population qui grandit trop vite. Quand Agnès arrive à destination, elle est révulsée par la pauvreté. Elle s'était pourtant préparée. Depuis le 19e siècle, la Grande-Bretagne a mis en place des cellules psychologiques pour ces voyageurs qui rentrent d'Inde, tant les contrastes entre la beauté et la misère peuvent être violents. Les bâtiments anglais de style victorien, avec leurs briques rouges et leurs parements clairs, avoisinent les temples en marbre aux idoles colorées. Les européennes, souvent habillées en blanc, tranchent avec l'explosion de couleurs des saris des autochtones. Dans les restaurants, les colons profitent des meilleurs mets, alors que dans les rues, les pauvres allongés à même le sol meurent de faim. Et puis, il y a les castes. La société indienne est divisée en ordres pour séparer les purs des impurs. La plus basse de toutes les castes est celle des intouchables. Ce sont des parias rejetés à la marge du monde des Indiens, comme du monde des Blancs. Peu de temps après son arrivée, Agnès s'enferme dans un monastère pour poursuivre son noviciat près de la ville de Darjeeling, au nord-est du pays. En mai 1929, elle enfile pour la première fois avec bonheur sa longue tunique blanche de religieuse novice. Elle lit la vie des saints, étudie, prie. Elle se forme aussi à l'enseignement pour assurer la mission de sa congrégation. C'est une vie calme et pieuse. 2 ans plus tard, en 1931, Agnès prête ses vœux. Elle devient une vraie religieuse et change de nom. Elle s'appelle maintenant Sœur Maria Teresa. Maria pour la Vierge, Teresa pour Sainte Thérèse de Lisieux, à qui elle voue une admiration sans borne. La petite carmélite, morte à 24 ans en 1897 d'une tuberculose, a été canonisée dès 1920. Depuis 1925, elle est aussi la sainte patronne des missionnaires. Pour sa première mission, Sœur Maria Teresa est envoyée à Calcutta dans une école pour filles de bonne famille indienne. Elle y enseigne pendant 6 ans. Elle sait se faire apprécier des élèves parce qu'elle est capable de mêler intransigeance et douceur. Les fillettes l'apprécient tant qu'elles l'appellent Ma, c'est-à-dire mère. Son dévouement et son talent lui valent d'être promue directrice de l'école. Fière de son avancement, sœur Maria Teresa écrit à sa mère pour lui raconter ses accomplissements. Quelques semaines plus tard, elle reçoit une lettre qui la déconcerte. Au lieu de la féliciter, sa mère lui rappelle qu'elle doit s'occuper des plus pauvres plutôt que de rester auprès des jeunes filles de bonne famille. Sœur Maria Teresa est piquée au vif. Même si elle vit au bout du monde dans un pays pauvre, c'est vrai que dans son école, elle vit en privilégiée. Le 10 septembre 1946, elle se rend à la gare de Calcutta. Elle a 36 ans et cela fait maintenant 17 ans qu'elle vit en Inde. Elle s'apprête à prendre le train pour Darjeeling pour effectuer sa retraite annuelle chez les Lorettes. Comme sa santé est un peu fragile, elle a aussi besoin de repos. Elle s'installe dans le train bondé, elle a une place assise, un beau wagon, mais à l'arrière, les pauvres s'entassent dans les odeurs de cuisine et au milieu d'animaux vivants qui serviront bientôt de dîner. Les gamins les plus débrouillards montent sur les toits des voitures et se cramponnent les uns aux autres pour ne pas tomber dans les virages de cette ligne de train qui borde les montagnes de l'Himalaya. Sœur Maria Teresa s'assoupit. C'est là, dans ce train, qu'elle entend l'appel de Dieu. Elle doit quitter sa congrégation et venir en aide aux pauvres. Arrivée à Darjeeling, elle s'ouvre de son projet à sa hiérarchie. La congrégation accueille sa décision de manière étonnante. Pour connaître la suite de ce récit consacré à Mère Teresa, la sainte des ténèbres, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.